Catherine Gaudreau analyse l'actualité de la Mauricie au 106.9 Mauricie. Que la Mauricie se
lève! Beaucoup de choses encore et de l'incertitude, même si les compétitions ont commencé, parce que Félix nous disait tout à l'heure qu'il suit le match entre le Canada et le Japon de l'équipe féminine. Alors oui, il y a du soccer, le softball également est commencé. Puis pendant ce temps-là, bien, les rumeurs s'enlignent. Ben, en fait, il y a des rumeurs qui disent que peut-être les Jeux, on pourrait malgré tout les annuler parce qu'il y a des cas de COVID, il y a une montée, il y a une flambée des cas. On va aller faire le point avec Philippe là-dessus. Salut Philippe!
Bon matin Catherine.
Alors Philippe, il se passe quoi? Est-ce qu'on pourrait annuler carrément les Jeux?
Bien, c'est ce que le directeur général du comité organisateur des Jeux olympiques de Tokyo 2020 a soulevé hier lors d'une conférence de presse. Et moi, je regarde un peu cette déclaration-là en disant que c'est beaucoup plus une déclaration pour rassurer le peuple japonais. Parce qu'il faut rappeler aux auditeurs que 80% du peuple japonais est en désaccord avec la tenue des Jeux olympiques pour plusieurs raisons, mais entre autres, ils ont peur d'une propagation du virus dans leur population qui est peu vaccinée. Donc, moi, je pense que c'est vraiment pour rassurer, parce que présentement, là, on est comme une meute qui essaye de trouver des problèmes parce que les Jeux olympiques sont pas encore démarrés. On est dans une période d'attente et là, ben, on gratte. Il y a 8 athlètes présentement qui ont été testés positifs à la COVID. Et il y a 2 athlètes qui sont officiellement exclus des Jeux, là. C'est pas des athlètes canadiens, mais c'est une taekwondoïste, chilienne, qui a été déclarée positive à la COVID, et une plancheuse du Pays-Bas, Candy Jacob. Donc, ça va être la réalité de ces Jeux-là. On va avoir ces nouvelles-là à chaque matin, des athlètes qui vont devoir être déclarés forfaits à cause d'un test positif à la COVID. Mais moi, ce que je dis aux gens qui m'entourent quand on en parle, c'est que la magie va opérer sous peu. Quand on est hôte d'un pays, des Jeux olympiques, on investit massivement, oui, dans les infrastructures, mais également dans le système sportif, pour s'assurer que lorsque le rendez-vous olympique débutera pour notre pays, bien qu'on fera bonne figure. Et si on se rappelle un petit peu à Vancouver, il y a 11 ans, bien, on n'avait jamais remporté de médaille d'or en tant que pays hôte. Et rappelez-vous l'effet de la victoire d'Alexandre Bilodeau, comment ça l'a uni le Canada parce que c'était le premier Canadien à remporter en sol canadien une médaille d'or olympique. Donc, j'ai l'impression qu'on va... Ben, les Japonais, nous, on ne le vivra pas beaucoup parce qu'on est très loin, c'est pas notre nation, mais les Japonais vont se galvaniser tranquillement et ça l'a débuté parce que le Japon a remporté son champion, les derniers champions olympiques en softball féminin. Ils ont remporté leur premier match aujourd'hui, mercredi, 8-1. Mm-hmm. Puis dans le softball féminin, ce qui est super intéressant, c'est que lorsqu'il y a un écart de 7 points, donc 8-1, bon, on met un terme à la partie. Donc, c'est pas des grandes dégelées qui se passent là, comme continuer à performer. Tu sais, moi, je trouve ça très intéressant.
Absolument.
Et là, ça m'amène dans la prédiction. Oui, Catherine?
Non, continue.
Ça m'amène aussi dans la prédiction des médailles parce que, comme je le disais, le Japon a investi dans ses infrastructures, mais aussi dans son système sportif. Donc, il devrait y avoir une récolte de médailles historique pour les Japonais, bien entendu. Et là, il y a un site Internet. Vous savez, maintenant, il y a des sites Internet spécialisés pour tout. Mais il y a un site Internet qui prédit le nombre de médailles avec des calculs mathématiques précis de chacun des pays. Donc, on prédit pour le Japon une récolte de 61 médailles et il terminerait au 4e rang. Donc, les prédictions sont sorties hier, mais avec toutes ces prédictions-là, Grace Note, le site Internet, la compagnie qui est spécialisée là-dedans, ça va être une année difficile pour les prédictions parce que c'est des modèles mathématiques qui sont basés sur les résultats, bien entendu, des championnats du monde des dernières années. Mm-hmm. Il n'y en a pas eu à cause de la COVID, des Coupes du monde et des sélections et des classements mondiaux des athlètes. Donc, ce qui nous concerne au niveau du Canada, ben on est toujours un peu dans le même peloton, c'est-à-dire on nous classe 20e, on avait été 22e lors des Jeux olympiques de Rio. Bien entendu, on est beaucoup moins fort en Jeux olympiques d'été comparativement aux Jeux olympiques d'hiver.
OK, alors j'imagine, de toute façon, le premier pays, ça va souvent, c'est souvent les États-Unis, ça va être la même chose encore cette année, j'imagine?
Ben tout à fait. C'est les États-Unis qui sont en premier dans ce classement-là. Okay. Mais ce qui me déçoit énormément, Catherine, là, c'est de revoir encore ces athlètes russes-là,
ouais.
puisque le comité olympique russe, donc qui seront représentés par des athlètes, et se situe au deuxième rang, malheureusement, de ce classement-là. Donc ça ramène un peu la dure réalité du sport, c'est-à-dire la réalité du dopage, puis le dopage étatique. Donc, c'est le gouvernement qui est en charge du dopage russe, puis ça, bien avant que le scandale a éclaté. On parle de pratiquement 1976 des Jeux olympiques de Montréal. Depuis ce temps-là, les Russes tricheraient.
Oui, absolument. Philippe, je veux qu'on aborde quelque chose, puis... Tu vas pouvoir nous parler de ton expérience à toi, parce que quand je te présente à nos auditeurs, bon, je parle de toi comme un médaillé, un quadruple médaillé paralympique. Alors, je veux que tu nous parles, tu sais, pour un athlète, là, de découvrir son site de compétition, parce que c'est ce qui se passe pour les athlètes actuellement qui arrivent graduellement. La première fois que tu arrives sur place et que tu vois ton site, comment tu te sens? Parle-nous de ton expérience à toi.
Ben moi, comme tu l'as mentionné, j'ai participé aux Jeux paralympiques, donc c'est toujours présenté après les Jeux olympiques. Donc il y avait déjà une tonne d'images dans ma tête, puisque j'avais écouté les Jeux olympiques de Sydney, j'avais vu les Australiens remporter une foule de médailles. Mais là, quand tu arrives là-bas, bien, c'est extrêmement impressionnant parce que les sites de compétition, on est habitué de voir d'aller à notre piscine, qui est une piscine de quartier, qui est une piscine universitaire. Et là, tu arrives dans un site de compétition, puis l'élément qui te marque le plus souvent, c'est l'espace. À quel point c'est grand, c'est énorme. Et si on revient en Australie, ils avaient bâti les plus grosses estrades à l'époque. Donc, on pouvait entasser plus de 24 000 spectateurs sur un seul côté d'estrade. Et donc, quand tu arrivais sur le bord de la piscine, là, tu voyais la dernière rangée des estrades. Mais si tu te reculais un peu, là, ça coupait déjà l'horizon tellement que c'était haut. Alors, après ça, c'est de trouver ses repères, parce qu'on a tous des routines, les athlètes. Par exemple, moi, je partais toujours de mon heure de course, qui est très précise. Hein. Si c'était 10h31, c'est 10h31, c'est pas 10h32, parce que c'est un show, les Olympiques.
Ouais.
Faut que ça rentre pile-poil. Donc, on n'est jamais en retard. Et je reculais toujours 3 heures avant, et là, ma routine embarquait. C'était quoi cette routine-là? C'était l'échauffement. Donc, lorsque j'arrivais sur mon site de compétition, en première fois, lorsque je foulais le bord de la piscine, j'essayais de trouver à l'endroit que j'allais m'échauffer. Et souvent, c'était la piscine de compétition. On peut toujours s'entraîner dans le lieu de compétition.
Mm-hmm.
Et après ça, je me payais la traite, c'est-à-dire j'allais dans le couloir qui m'était désigné pour la compétition. Et là, je trouvais mes repères. Et à un moment donné, moi, ce qui m'a beaucoup surpris, dans, je pense, la deuxième ou la troisième journée de compétition, c'est qu'à un moment donné, je reçois une petite tasse sur l'épaule, juste avant de sauter dans l'eau, dans mon échauffement. Et là, c'est l'annonceur qui présente les athlètes. Et là, il vient me dire, ben, il dit, j'ai vu ton nom à quelques reprises dans la liste des compétitions, puis je suis pas en mesure de le prononcer adéquatement. Parce que c'est un anglophone de l'Australie.
C'est
bien
sûr
que entendu.
Philippe Gagnon, hein, pour un anglophone, c'est pas facile, là.
Exactement. Et il est venu me voir pour s'assurer de bien le prononcer. Et ce qui est au niveau de l'annonce des langues qu'on utilise, c'est toujours surprenant d'entendre le français. Sur chaque site olympique, on parle toujours français. On parle l'anglais, le français et la langue du pays. Donc, le Japon pour les Jeux. Pourquoi le français? Parce que celui qui a réformé le mouvement olympique en 1912, c'est un Français qui s'appelle Pierre de Coubertin. Donc, on entend toujours les présentations en français. Okay. Après ça, moi, ce qui est important dans ma routine, c'était les douches et surtout trouver mon endroit où j'allais pouvoir m'isoler. Parce que moi, j'avais besoin de temps.
Mm-hmm.
J'avais besoin d'un moment de réflexion. Pas de réflexion, plutôt de relaxation où je mettais mon maillot, parce que les maillots, là, je vous dis, ça a l'air simple à enfiler quand on va se baigner avec notre beau-frère, là, mais les maillots de compétition, là, c'est serré. Des fois, ça déchire parce que, dans le fond, ce qu'on veut le plus possible, c'est limiter la vibration du muscle dans l'eau. Donc, pas besoin de vous dire que c'est très serré. Et là, je partais là-dedans puis je découvrais à chaque moment, mais c'est toujours impressionnant parce que tu as des sites d'échauffement qui sont toujours tout juste à côté et c'est grandiose de pouvoir découvrir ça parce que rarement on a pu compétitionner dans ces infrastructures-là parce qu'ils font des épreuves tests. Ouais. Mais des fois, on n'est pas en mesure de se présenter. Des fois, on n'est tout simplement pas qualifié pour les épreuves tests en tant que PO. Puis pas besoin de vous dire qu'avec la COVID, les épreuves tests pour les Jeux olympiques de Tokyo, il y en a eu très peu.
Ah, c'est clair. Philippe, juste pour que les auditeurs comprennent ce que tu as accompli comme athlète paralympique, c'est pas rien quand même, parce que bon, justement, tu nous parles de ton expérience aux Jeux paralympiques de 2000 à Sydney. Tu avais remporté 4 médailles en paranatation, 3 médailles d'or. Tu avais inscrit 2 records du monde puis un record paralympique. C'est quand même exceptionnel. Tu dois garder des souvenirs formidables de ces moments-là. Ça s'oublie jamais, ça, Philippe?
Ah non, ça s'oublie pas. C'est vraiment des moments exceptionnels. Puis le moment que tu me parles, quand tu me parles de ça, ouais. Un des moments que je me rappelle le plus, c'est de voir notre drapeau canadien se hisser au sommet de la piscine avec l'hymne national. Je suis un Québécois, mais je suis aussi un Canadien. Oui. Puis ce moment-là, c'est vraiment spécial. Puis maintenant, quand j'écoute un match de hockey puis j'entends l'hymne national, ben, je peux vous dire que je la connais, mon hymne national. Que je sois souverainiste ou pas, je la connais. Parce que c'est ce pays-là que j'ai représenté fièrement. Et je me rappelle également que la foule était vraiment partisane en Australie parce que c'est le sport national,
ben oui.
C'est la natation. Donc, on se retrouve à avoir des piscines, remplacer nos glaces, nos patinoires dans chacun de nos quartiers au Québec, au Canada, par des piscines, mais ça va faire que votre sport national, c'est la natation, c'est la réalité des Australiens. Et c'est un peuple de sport amateur. Nous, on est un peu plus un peuple de sport professionnel, bien entendu, le hockey, le football, le basketball. Mais là-bas, c'est une île, hein? C'est un peu plus isolé, c'est différent. Donc, le sport national, la natation, le cricket, c'est des grands fans, et ils connaissent vraiment leur sport. Et là-bas, les Australiens, ils se déguisent. Là-bas, le kangourou, le boxing kangourou, je ne sais pas si les auditeurs s'en rappellent, c'est un kangourou jaune avec des gants de boxe rouges.
Oui.
Ben, c'est partout, c'est présent, les gens sont déguisés, ils ont des gros toutous, et souvent, là, ils font des oi.
Okay.
Fait que c'est très imposant comme foule. Puis ça m'amène à dire que les athlètes qui ont peu d'expérience, qui vont nous représenter à Tokyo, ben probablement de ne pas avoir de foule dans les estrades vont peut-être les aider. Parce que c'est quand même intimidant tout ça. Quand tu foules sur le bord de la piscine pour une première fois au niveau olympique, et c'est peut-être un élément qui va favoriser les performances pour ceux qui participent à leur première Olympiade.
Philippe, ça a été formidable de t'entendre là-dessus. Merci d'avoir partagé cette expérience. Je suis convaincue que les auditeurs t'ont écouté avec beaucoup d'intérêt. On se reparle demain, bien sûr, plusieurs sujets. C'est toujours fascinant de t'entendre. Merci, Philippe, de ta participation.
Merci, bonne journée à tous.
OK, bye-bye. Philippe Gagnon, donc, qui passe beaucoup de temps avec nous ces temps-ci et qui, justement, c'est un athlète. Alors, il sait très bien par quoi passent les athlètes. Donc, c'est bien fun de l'avoir avec nous.